VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel en Tanzanie. Le gouverneur de Dar es Salaam a accusé le chef de l'opposition Freeman Mbowe de trafic de drogue. Ce dernier a dénoncé une campagne de dénigrement public. Eric Manirakiza.
Le gouverneur Paul Makonda a dévoilé une liste manuscrite de 65 personnes impliquées, selon lui, dans un réseau de trafic de drogue. Le député Freeman Mbowe, président du principal parti de l'opposition Chadema, figure sur cette liste. Monsieur Mbowe a dénoncé une politique de calomnie visant à nuire à l'opposition et des personnes innocentes. Le célèbre pasteur Josepha Gwajima est le richissime homme d'affaires de Dar es Salaam et président de la prestigieuse équipe de football Yanga, Youssouf Manji, sont également pointés du doigt. Réfutant ces accusations, ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour comparaître devant la police tel que le gouverneur l'avait dicté. Ils se sont présentés hier, accompagnés de leur avocat, supporters de l'équipe Yanga et d'une foule de partisans. Une première liste divulguée par le gouverneur comprenait une douzaine de policiers, des chanteurs et acteurs du pays. Ces derniers ont été aussi sommés de se présenter à la police.
Au Zimbabwe, le pasteur Ivan Mawarire, l'un des chefs de file de la fronde anti-Mugabe, a recouvré la liberté hier. La veille, la Haute Cour avait ordonné sa libération contre une caution de $300 en réclamant au prévenu toutefois de remettre son passeport à la justice et de se présenter deux fois par semaine à la police. Jacques Aristide.
Parti en exil en juillet 2016, en Afrique du Sud, puis aux États-Unis, il est rentré au pays le 1er février dernier, mais a été immédiatement interpellé à son arrivée à l'aéroport international de Harare. Accusé d'incitation à la violence et de tentative de sabotage du gouvernement, il était depuis en détention. Une arrestation condamnée par le gouvernement américain et des organisations de défense des droits humains. Début 2016, le pasteur Mawarire avait lancé une vaste campagne de protestation baptisée « This Flag » ou « Ce drapeau » contre le président Robert Mugabe. Dans une vidéo devenue rapidement virale sur Internet, il était apparu avec le drapeau du Zimbabwe pour dénoncer la corruption du régime et les conditions de vie difficiles de la population. Son action avait initié une vague de grèves et de manifestations. Le militant doit comparaître devant la justice le 17 février prochain.
Le discours à la nation du président sud-africain sous pression d'appel de l'opposition a démissionné, a donné lieu jeudi à une bagarre générale suite à l'expulsion violente de députés qui tentaient d'empêcher Jacob Zuma de s'exprimer. Une trentaine d'agents de sécurité ont été envoyés pour faire sortir de force les députés d'opposition du parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique IFF et ont donc échangé des coups avec les élus. Pendant plus d'une heure, ces derniers, vêtus de leur traditionnelle combinaison rouge de mineurs et de femmes de ménage, avaient interrompu le président Zuma, estimant qu'il n'était pas légitime pour s'exprimer car il aurait violé la Constitution.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le président des États-Unis, Donald Trump, reçoit aujourd'hui à Washington le premier ministre japonais, Shinzo Abe, avant de s'envoler avec lui pour un week-end de golf en Floride, avec la volonté affichée de tisser des liens personnels. Deuxième dirigeant étranger à se rendre à la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, M. Abe est en quête d'assurance sur le devenir de l'alliance américano-japonaise, face notamment à la montée en puissance de l'imposant voisin chinois. L'appel téléphonique extrêmement cordial annoncé tard dans la nuit de jeudi entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping devrait donner un relief supplémentaire à la rencontre. Et la Maison-Blanche a aussi annoncé que Donald Trump recevra lundi le premier ministre canadien Justin Trudeau, troisième dirigeant étranger à être accueilli par le nouveau président américain. De l'immigration au commerce international en passant par la lutte contre le changement climatique, les points de divergence entre les deux dirigeants sont nombreux et ils les ont parfois affichés publiquement. À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi, avait ainsi tweeté le premier ministre canadien au lendemain de la signature du décret américain anti-immigration. Et nous parlons d'immigration. La Cour d'appel de San Francisco a maintenu hier la suspension du décret anti-immigration de Donald Trump, mais sans que la justice se soit prononcée sur le fond du dossier. La bataille judiciaire étant appelée à se prolonger, Les trois juges fédéraux ont rejeté l'argument de l'exécutif selon lequel la fermeture temporaire des forêts, des frontières était une prérogative absolue du président des États-Unis. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, s'est réjoui de l'effectivité de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, particulièrement dans ce cas-ci entre l'exécutif et le judiciaire. M. Cohen réagit d'abord à la décision.
Je ne suis pas surpris. Je crois que l'ordre que président Trump a signé n'était pas réfléchi très bien parce que ça a fait beaucoup de tort aux gens qui étaient déjà aux États-Unis, qui avaient des visas, qui avaient l'autorisation d'être étudiants ou résidents ou hommes d'affaires, etc. Ils ont tout bloqué sans penser à ces difficultés. Le tribunal n'a pas décidé qu'il a tort. Ils ont décidé seulement que ça mérite une revue devant un tribunal.
Mais quand même, le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la fermeture temporaire des frontières était une prérogative absolue du président des États-Unis.
C'est vrai.
Alors, qu'est-ce à dire pour ce qui est des rapports entre l'exécutif et le judiciaire selon la Constitution américaine?
Notre Constitution a établi trois branches et chaque branche a des pouvoirs, c'est-à-dire la présidence, l'administration, les deux chambres du Parlement et le judiciaire. Et chacun a des pouvoirs et ça a bien marché depuis 250 ans maintenant.
Les déclarations du président comme quoi les juges n'avaient qu'à le laisser faire parce qu'il y avait des raisons d'intérêt supérieur de la nation, la sécurité, ça n'a pas été retenu.
Non, parce que les avocats pour le président ont dit « Vous n'avez pas le droit de passer ça en revue. » Et c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont porté plainte, qui sont allés devant le tribunal pour dire que ce que le président a fait n'est pas bien. Il a violé la Constitution, c'est-à-dire l'État de Washington, l'État de Minnesota, qui sont très importants parce que leurs gens ont souffert, ont beaucoup souffert à cause de cet ordre. Et aussi, il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand nous étions en guerre contre le Japon et l'Allemagne, le président Roosevelt a signé un ordre de mettre tous les Américains d'origine japonaise dans les camps de concentration. Il ne faut jamais répéter ça.
Donc vous faites allusion à un interdit concernant les musulmans?
Un peu, oui. Un peu. Ils disent que les musulmans ne sont pas visés. Mais ce qu'on fait à l'étranger, c'est-à-dire interdire de donner des visas aux gens, ça, le président a le droit de faire ça. Mais ce qu'il a fait dans son ordre, il a fait beaucoup de tort aux gens qui étaient déjà ici, qui avaient des visas ou qui étaient dans les avions parce qu'ils avaient déjà eu leur autorisation de venir. C'est là-dedans que le président a beaucoup tort.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Téhéran menace, le peuple d'Iran fera regretter le langage de la menace, a affirmé aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani lors du 38e anniversaire de la révolution islamique sur fond de tensions avec le président américain Donald Trump. Le président américain a notamment critiqué de nouveau l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne, et son pays a imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran après un test de missile par l'Iran. En Syrie, une nouvelle alliance de factions djihadistes syriennes qui comprend l'ancien front al-Nusra a juré d'intensifier le combat contre l'armée syrienne et ses alliés du Hezbollah libanais dans le but de chasser du pouvoir le président Bachar al-Assad. L'alliance djihadiste a enrôlé des milliers de combattants qui ont déserté ces dernières semaines les groupes de l'armée syrienne libre, indignés qu'ils étaient par la volonté de leurs dirigeants de prendre part à un processus de paix avec le régime Assad. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan a validé aujourd'hui une révision constitutionnelle visant à renforcer ses pouvoirs et qui doit être soumise à référendum le 16 avril, selon le vice-premier ministre Numan Kurtulmus. Le référendum est prévu pour le 16 avril, a déclaré M. Kurtulmus lors d'une allocution retransmise en direct, ajoutant que si Dieu le veut, la Turquie entrera dans une nouvelle ère au soir du 16 avril après le scrutin. Jean-Roger Billon, merci de nous avoir suivis et bon week-end sur votre station préférée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.